Nous reprenons, si vous voulez bien, et l'invité de notre séminaire est aujourd'hui Pierre Jourde, qui est à la fois, je ne sais pas dans quel ordre, universitaire, je dirais pour commencer, puisqu'il est professeur à l'Université de Grenoble et qu'il est spécialiste de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, sur lesquels ont porté ses premiers travaux, hein, sur la période de la décadence, notamment, sur Huysmans en particulier. Mais il est aussi observateur de la culture et de la littérature contemporaine. Il a publié un certain nombre d'ouvrages critiques ou même polémiques sur la littérature contemporaine, dont La littérature sans estomac en 2002, avec, au fond de ce livre, j'aime le rappeler, un certain nombre d'articles que j'avais commandé à Pierre Jourde pour Critique, puisqu'ils ont été publiés dans la revue Critique pour commencer certains de ces chapitres. Et puis j'avais dit à Pierre Jourde à un moment que, après des articles sévères, il nous fallait aussi des articles positifs. Et il ne fallait pas seulement de la polémique, mais aussi de l'apologie. Et c'est comme ça que dans la littérature sans estomac, il y a aussi des éloges d'un certain nombre d'écrivains. Si mes souvenirs sont bons, celui que tu avais choisi pour en faire l'éloge, quand je l'avais réclamé, c'était Chevillard.
C'était Chevillard, oui.
Il me semble. Et il y avait donné lieu à un chapitre.
Oui. Et il y avait aussi un texte sur Jean-Pierre Richard que tu m'avais commandé.
Il y avait aussi un texte sur Jean-Pierre Richard parce qu'il m'avait semblé qu'il ne fallait pas seulement que tu exerces ton talent de polémiste, mais aussi que la critique, c'est l'apologie. C'est dire ce qu'on aime, ce qui est souvent plus difficile. Il est donc l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages importants sur la littérature contemporaine. Vous connaissez, vous pouvez connaître aussi ce « Jour des Nolos », qui est un pastiche du Lagardère-Michard. Peut-être avez-vous lu également son blog sur le site du Nouvel Observateur, qui porte à la fois sur des questions de littérature et de culture contemporaine. Enfin, Pierre Jourde a lui-même publié une série de romans, et de cette partie littéraire de son œuvre, je ne citerai que les derniers, hein, qui sont publiés chez Gallimard, dont un qui a été publié l'an dernier, Le Paradis Noir, et l'an dernier, en 2008, Le Tibet sans peine. Il a donc une œuvre de critique littéraire universitaire, de critique littéraire, comment dire, franc-tireur, et d'écrivain. Alors je ne sais pas à quel titre il prendra la parole aujourd'hui, mais son titre, en tout cas, c'est Le réel difficile. Et j'ajoute que je suis très reconnaissant de le voir venir avec des béquilles. Et à la suite d'un accident qui, si j'ai bien compris, n'est pas de cheval, mais de vacances de neige.
Oui, plus classiquement.
Voilà.
Oui, de cheval, suite était plus noble. Merci beaucoup, Antoine, de cette présentation, et merci beaucoup de cette invitation. Alors, dans le cadre de ce séminaire sur écrire la vie, j'aimerais aborder cette question sous un angle particulier, qui serait celui de que j'appellerais l'authenticité. Dans la représentation spontanée que l'on se fait, que peut-être vous vous faites, que je me fais certainement de la relation entre le vivre et l'écrire, Au fond, nous plaçons toujours la vie avant. La vie précède l'écriture et la détermine. Il y a une réserve d'expérience et nous nous disons que écrire, eh bien, c'est traduire en mots cette expérience. Premier point. Deuxième observation liminaire. Il me semble qu'il y a dans notre culture ce qu'on pourrait appeler un mythe de l'authenticité. Mythe qui nous vient, je crois, du XIXe siècle. C'est-à-dire précisément de la modernité, de l'industrialisation, du début de l'uniformisation des modes de vie, moment où l'on se retourne vers l'origine, précisément, où l'on se soucie de la préservation des traditions, au moment où il semble qu'on les perde. Et dans cette représentation, au fond toute romantique, l'authenticité, c'est la vraie vie. La vie en lien avec l'origine, avec la particularité régionale. C'est la singularité contre l'uniformité. Singularité d'un terroir, d'une individualité. Être authentique, c'est rester fidèle donc, à cette origine, à ce sens préexistant. Et cette authenticité, elle règne aussi bien dans la littérature que dans la publicité, avec le mythe du bon produit de nos régions. Et le succès de certains genres contemporains, il est question ici d'écrire la vie, au fond, c'est devenu, si écrire la vie était un genre, c'est devenu le genre dominant, c'est devenu le genre envahissant. Il n'est plus question que de littérature du témoignage, de la confidence, de l'autobiographie, de l'autofiction, du journal, etc. Même lorsque ces textes sont vendus sous l'étiquette roman qui sert encore à faire vendre. Le succès de certains genres, donc, repose sur ce soubassement de l'authenticité, c'est-à-dire de la transmission d'une idiosyncrasie, régionale ou personnelle, la littérature du témoignage, disons, la littérature du moi, pour faire un paquet avec tous ces genres, et la littérature du terroir, que j'ai entendu quelqu'un qui n'aimait pas appeler la littérature du terroir-caisse. Transmettre donc une idiosyncrasie selon cette idée que c'est l'autorité du réel qui régente la parole. Alors cette question de l'authenticité littéraire, je vais essayer de l'aborder de deux manières. D'abord avec, pour répondre à ce que disait tout à l'heure Antoine, d'abord avec la casquette de l'écrivain, en évoquant un récit publié en 2003 et qui s'appelle « Pays perdu ». Et puis dans un second temps, avec la toque du critique, disons, en m'interrogeant précisément sur le succès contemporain des genres de l'intime et l'idéologie de l'authenticité qu'ils illustrent. En écrivant « Pays perdu », en étant confronté d'ailleurs aux suites de la publication de ce livre, qui a donné lieu à divers faits divers, à des suites judiciaires, médiatiques, etc., au fond, je me suis retrouvé dans la situation d'un écrivain à scandale, en quelque sorte, dans la peau d'un écrivain à scandale, que je n'avais pas un instant cherché à intégrer. J'ai été amené à me poser un certain nombre de questions éthiques, qui sont aussi des questions esthétiques, qui m'ont poussé à considérer d'une autre manière ce que l'on dit aujourd'hui de l'autofiction, de l'autobiographie, des droits imprescriptibles de l'écrivain à tout dire. De cela, nous allons reparler. Donc, première partie, autour de Pays perdu et de la question de l'authenticité. Je vous résume rapidement le livre pour que la suite soit compréhensible. Donc, la scène, c'est le village où ma famille possède depuis très très longtemps, depuis plusieurs siècles, une maison et une ferme en activité. Mon frère vient d'hériter d'un vieux cousin qui vivait en solitaire dans sa ferme. Il s'agit donc d'aller faire l'inventaire de la ferme. Évidemment, comme nous sommes en Auvergne, de chercher le bas de laine rempli d'écus que le vieux solitaire ne manque pas d'avoir caché au fond de sa ferme. Ça, c'est un peu l'occasion. L'essentiel, c'est qu'en arrivant sur les lieux, la jeune fille d'amis paysans vient de mourir, Et on va l'enterrer à quelques mètres de là où est enterré mon père. Et sur cette anecdote, en fait, j'ai greffé une sorte de... Le récit se déroule en deux jours. C'est le récit de la visite à la morte et des obsèques. Et l'occasion de faire le portrait de ce village extrêmement perdu, comme l'indique le titre, pays perdu, extrêmement reculé, archaïque, etc. Donc, je m'installais là dans quelque chose qui, au fond, instinctivement me faisait reculer en littérature, c'est-à-dire dans une sorte de caricature d'authenticité. Tout y est. La mort, le rapport à la famille, le terroir. Si la terre ne ment pas, comme dit l'autre, on pourrait aussi bien dire que la mort ne ment pas. Donc j'aimerais aborder cette question de l'authenticité ici à travers deux points. Écrire la mort, en tout cas la relation à la mort comme épreuve de vérité, et on a vu dans ce séminaire qu'il en a été beaucoup question, il en a été question aujourd'hui, il en a été question dans la belle communication qu'a fait Éric Marty sur Roland Barthes. Donc ce sera le premier point que je passerai un peu rapidement. Et deuxième point, le terroir comme réserve d'authenticité. La mort, donc, non pas ici la mort de soi, sa propre mort, comme il vient d'en être question avec Montaigne, mais la mort de l'autre, celle ici de l'enfant, le deuil, ce mot que nous a rappelé Éric Marty, Barthes n'aimait pas car trop psychanalytique, le chagrin. A priori, on ne triche pas avec la mort. Là, nous sommes face à notre vérité, on ne triche pas avec la mort d'un enfant, en l'occurrence. Nous ne sommes plus dans le simulacre, nous ne pouvons plus nous mentir, nous sommes dans l'expérience authentique par excellence, ce qui nous confronte avec l'essentiel de la condition humaine. Eh bien, l'objet, ou plutôt non, ce n'est pas l'objet de Pays perdu, mais ce qui s'est passé en écrivant Pays perdu, ça a été de m'apercevoir que précisément ça n'était pas tout à fait ça. Et que ce qu'on pouvait prendre de l'extérieur comme une réserve d'authenticité, qu'il n'y avait plus qu'à déverser dans l'écriture, et pour reprendre le titre de cette conférence, c'était plus difficile que je ne le croyais. Et par d'autres aspects même, le deuil m'est apparu en l'écrivant, en l'occurrence, comme le contraire d'une expérience authentique, et bien plus comme ce qui ouvre la dimension de l'inauthentique dans notre expérience. Car, dans le chagrin, l'amour se heurte au vide d'abord, s'exerce dans le vide. Il a élu un être singulier qui s'est résorbé dans l'absence, ce qui était là n'est plus là, le monde est le même sans lui, alors même que le monde s'articulait et trouvait sens autour de cette présence. Donc il y a une première dimension d'inauthentique qui tient à cet écart qui s'ouvre entre présence et absence. D'une certaine manière, ce qui s'éprouve dans le chagrin, c'est qu'il est impossible que cette absence ait lieu, mais elle est. La mort est injustifiée dans le chagrin et l'univers l'est avec elle, qui apparaît désaffecté, désert et, disons, privé de nécessité. En même temps, l'objet aimé n'apparaît avec toute la force de sa nécessité que dans cette disparition, justement. De sorte que le chagrin apparaît comme désir que l'amour se perpétue et révolte contre le fait que c'est dans la disparition que cette singularité, l'être qui était objet d'amour, trouve toute sa force, toute la force de sa présence dans l'absence. Donc, confronté à cela, ce qu'il s'agirait d'écrire, c'est cela, cette souffrance qui se heurte à la déréalisation du monde dans la disparition. Mais s'ouvre alors une deuxième dimension d'inauthentique, car, et c'est l'objet d'observations qui se font dans Pays perdu, il n'y a pas de chagrin sans intermittence, il n'y a pas de chagrin sans délai, il n'y a pas de chagrin sans rémission, ni de chagrin qui se vive comme insuffisant par rapport à l'absolu de la perte. Et cela ne se passe jamais sans que l'on observe que le chagrin s'attache à des objets fétiches, se déclenche toujours sur des détails d'apparence secondaire. Ces intermittences du cœur, telles que Proust les a analysées, manifestent la difficulté qu'il y a même à être à son propre deuil. D'où une culpabilité, un désir de ranimer la mémoire, et avec la mémoire le chagrin, qui au fond est un désir de souffrance, dans lequel le deuil découvre un autre aspect de son inauthenticité. La mort de l'être aimé induit comme malgré soi, non pas une attention à lui, mais une attention à soi. D'où l'idée qu'il n'y a pas de chagrin qui sonne juste, que le deuil est l'histoire de l'impossible expérience du deuil. Et on pourrait reprendre pour la littérature ce mot de Valéry, la mort parle d'une voix profonde, mais c'est pour ne rien dire. Reste qu'il ne s'agit pas, pour écrire la vie, de contourner la mort, mais d'essayer au contraire de cerner, en effet, ce rien qu'elle a à nous dire. Alors, si la mort se refuse comme source d'authenticité, comme source de vérité, nous reste le terroir, les vraies choses, ce qui est dans notre imaginaire urbain, la vraie vie. Pays perdu parle de la vie paysanne telle qu'elle est en train de disparaître. Et dans cette seconde partie, je voudrais aborder donc, disons rapidement, 5 points hein, sur l'authenticité du terroir. D'abord, dans quelle mesure peut-on, l'écrivant, être vrai dans un simple récit d'expérience? Deuxièmement, qu'est-ce qui peut apparaître comme représentatif lorsqu'on décrit cette vie? Troisièmement, la figure du paysan comme figure de l'authenticité. Quatrième point, la révélation du secret. Et cinquième point, la vérité de la sensation. Comment être vrai? Est-ce qu'on peut vraiment coller au plus près de la vérité? Et c'était l'entreprise de Pays perdu, s'en écarter le moins possible. D'abord, je me suis aperçu, l'écrivant, qu'on devait toujours, par souci d'efficacité, changer des détails, sauf à accepter, bon, d'une part, de se perdre dans l'insignifiance. Donc j'ai dû opérer des substitutions de personnages, de liens de parenté, tout simplement parce que si je ne l'avais pas fait, ça m'aurait entraîné dans des digressions et des complications qui auraient perdu le sens, la signification de mon récit. Il y a aussi une nécessité de composition qui fait rassembler ou concentrer des éléments qui ne l'étaient pas. À la base, Pays perdu, c'est la composition tragique, unité de lieu, unité de temps, le village, les obsèques, 2 jours. Maintenant, comment pouvais-je intégrer dans ce récit très simple des obsèques ce que je voulais réellement faire, c'est-à-dire un portrait de ce village, de ce lieu? J'ai donc eu recours à la fiction, à l'intérieur de ce qui voulait s'approcher au plus près du vrai, à partir d'un élément vrai. Un certain nombre de familles du village, comme c'est la tradition, vont dans la maison du défunt lui rendre visite. Elles ne sont pas venues au même moment, elles ne sont pas toutes venues, mais j'ai dû, pour mon récit, les faire toutes venir, et j'ai même fait venir les morts, en fait. J'ai convoqué les morts, et je les ai convoqués dans le cortège qui attendait la fin de la cérémonie à la sortie de l'église. Il y a donc, c'est un premier point rapide, une recherche de l'économie signifiante, qui peut entrer en contradiction avec, au fond, ce qui est l'insignifiance de notre expérience commune, la perte, la dissémination du sens que nous vivons. Mais notre expérience est aussi constituée de symbolique. Ici, par exemple, dans le rapport qui s'institue entre la dissémination en unité close, les maisons fermées sur elles-mêmes, qui sont un peu l'unité signifiante dans ces villages, et l'unanimité de la communauté autour du deuil. Ici donc, et c'est sur cette idée que je voudrais développer, le récit ne colle pas au fait, en effet, mais il colle à quelque chose de sans doute plus important, qui est la représentation que se font les gens de ce qu'ils sont. Que peut-on raconter d'un petit hameau paysan français aussi isolé aujourd'hui? Comment sait-on les choses? Quand on est de cet endroit, il y a des choses qu'on voit, bien entendu, auxquelles on assiste, mais il y a aussi les choses qu'on vous raconte. Et ces choses qu'on vous raconte, qu'on se transmet, sont sujettes à caution, à déformation. Dans une séance de ce séminaire, Antoine Compagnon a analysé le passage des essais où Montaigne avoue mélanger choses vues et choses entendues, donc non vérifiables. Au fond, dans Pays perdu, j'ai suivi le même principe, mélange de choses vues et mélange de choses entendues. Et sans doute parce que... Alors, j'en ai eu scrupule, puisque à l'origine, mon propos était d'être le plus vrai possible. Mais au fond, je me suis rapidement défait de ce scrupule, a posteriori, en me disant qu'un pays, c'est d'abord un faisceau d'histoire, une fabrication de la parole. Et qu'au fond, il s'agissait de le montrer non pas dans cet idéal inatteignable du tel qu'il est, mais plutôt du tel qu'il se vit, tel qu'il se dit, tel qu'il se raconte, tel qu'il se rêve. Deuxième point, on fait un choix, lorsqu'on fait un tel récit, on fait un choix d'événement, dans quelle mesure ce choix peut-il prétendre être représentatif, s'approcher en effet de la substance de la vie. Écrivant ce récit, et là encore j'en ai eu des scrupules, c'est un petit peu une sorte d'examen de conscience que je me livre devant vous, j'ai insisté presque naturellement sur les éléments les plus faciles, c'est-à-dire les plus hauts en couleur, les plus truculents, les plus violents, les plus pittoresques, ceux qui sont présents, fréquents, mais qui ne constituent sans doute pas la substance, la trame de la vie. J'ai parlé de l'alcoolisme, j'ai parlé des dégénérescences, j'ai parlé des morts violentes, j'ai parlé de la crasse, de la bouse de vache, de tout ce qui, au fond, ravissait mon enfance, il faut bien le dire, même si cela ne ravit pas forcément tout le monde, dans le but d'insister sur des aspects vrais, en effet, la dureté de la vie, le caractère archaïque du lieu, sur ce qui, au fond, frappe un regard extérieur. Mais, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, sur le rapport entre faits et représentations, ces faits-là ne correspondent évidemment pas à l'image que veulent donner d'eux-mêmes ceux qui y habitent, ni même au commun de la vie, au commun de la réalité. C'est-à-dire que s'il y a encore dans l'Auvergne profonde des maisons où la crasse atteint à l'épopée, le paysan moyen, lui, tient à laver son carrelage de manière absolument impeccable et à le faire savoir. D'où une espèce d'équivoque, équivoque même de réception, puisque j'ai consacré quelques pages, j'ose le dire, à la bouse de vache, à chacun son idéal, chacun son objet, qui m'a été très longtemps et qui m'est toujours une cause de ravissement, et en tout cas d'interrogation métaphysique, n'ayons pas peur des mots, mais qui a été, alors, page qui pour moi était l'expression d'une admiration sincère et du fond du cœur, mais qui évidemment ont été prises très mal sur place, puisque le paysan qui lui y vit n'a qu'une idée, c'est de s'en débarrasser, contrairement à celui qui n'y vit pas et qui adore s'y plonger. J'étais donc d'une certaine manière dans la fausseté par excès de couleur. J'ai contredit là la banalité, le caractère répétitif qui est celui de ces vies, semblable par là à beaucoup de vies d'ailleurs sur ce point. Écrire la vie ici, enfin, la difficulté du fait consiste à chercher le point d'équilibre entre caractérisation et insignifiance. J'ai donc un sentiment ambigu par rapport à cet aspect du texte, à la fois l'impression d'un mensonge dans lequel la violence de la couleur est au service de l'authentique, de ce qui fait authentique, mais sentiment aussi que j'avais en écrivant d'une relative banalité de tout cela, parce que j'y étais plongé depuis l'enfance, parce que ça avait fait mon quotidien pendant de longues années. J'ai donc cherché à rendre compte d'un double sentiment, celui d'une réalité très forte, très incarnée, très, très, très puissante, qui frappe lorsqu'on la découvre, et celui aussi étroitement mêlé de ce que j'appellerais une foncière irréalité, chez des gens parfois que la solitude, la déconnexion du contemporain, semble pour certains rendre chimérique, voire fantomatique. Il y a des figures fantomatiques, en effet, dans ce récit. Obsèques à la campagne, le déroulement permettait des scènes à faire, de beaux tableaux. La descente du cercueil depuis la chambre, l'attente de centaines de paysans pendant des heures sous la neige, en dehors de l'église, le cercueil porté à main d'homme jusqu'à la tombe, puis la famille veillant. Et pourtant, ces scènes à faire suscitent le sentiment désagréable d'une fixation artificielle. La scène isole des singularités significatives. Elle prétend livrer l'authentique, le caractéristique, alors que ces moments se déroulent en fait dans le sentiment de l'insignifiance. Que faire alors ? Refuser la scène ou la faire ? Ou au contraire, ne pas s'y dérober ? Non pas au nom de l'authentique, non pas au nom du vrai, non pas parce que c'est arrivé, mais à cause justement du sentiment d'irréalité qui accompagne toujours ces moments-là. En quelque sorte, ce genre de scène dans l'idéal, je ne sais pas si je suis arrivé, mais ça serait un but, il faudrait le décrire sans insister, sans s'apesantir. Montrer le cérémonial du deuil à la fois comme théâtre et comme tentative d'adhésion au moment et au lieu, comme une manière de vivre la mort et de lui faire obstacle. Nous sommes là un peu dans le mythe de la figure paysanne. C'est cette figure haute en couleur, truculente, qui peuple le roman paysan français. Or, pour moi, ces figures, elles sont authentiques, j'allais dire, dans la mesure de leur inauthenticité. L'authenticité est plus une valeur médiatique et commerciale que littéraire. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé lors du procès à Aurillac, puisqu'il y a eu un procès à la suite. Le livre engendrait un certain nombre de suites violentes, etc. Et ce que j'ai lu dans les journaux, des journalistes qui observaient des paysans que je connaissais depuis 40 ans, c'était qu'on avait là des figures sympathiques et frustes de gens qui n'avaient pas les mots, qui au fond étaient là, faibles et désarmés face à la justice de leur pays, devant évidemment un universitaire qui lui maîtrise les mots. Et ce portrait n'était pas faux. Passait dans les articles de journaux des figures stéréotypées, le patriarche, etc. Il y a toujours un patriarche à la campagne. Bref, des sentons. En réalité, les connaissant, je voyais, moi, ce qui se passait, comme je le voyais toujours au village. C'est-à-dire des gens qui, comme le garçon de café de Sartre joue au garçon de café, savent parfaitement jouer les paysans. Et ces jeux et ces rôles étaient parfaitement répartis dans la vie, comme ils l'ont été au procès. Savoir être un pauvre paysan, savoir être un beau paysan qui sait sortir un apophtègme au bon moment, etc. Ce que ne comprend pas le discours médiatique, c'est que même un paysan n'est pas une figure close, pleine d'elle-même. C'est quelqu'un qui a une conscience, c'est quelqu'un qui ruse avec lui-même, c'est quelqu'un qui ruse avec les autres, c'est quelqu'un qui, comme vous et moi, à distance de lui-même. Et j'en veux pour preuve le fait que, au fond, les paysans les plus authentiques dans l'apparence de cette région, ils étaient deux, je vais vous les nommer même si vous ne les connaissez pas, il y avait la Berthe et il y avait le Jacky, à tel point même que le Jacky a été le seul du pays à figurer sur une carte postale, comme figure de l'authentique paysan auvergnat, avec sa grande ceinture, sa casquette, son mégot au coin du bec. J'ai bien connu le Jacky, qui était authentique, aussi authentique qu'on veut, mais qui était né en banlieue parisienne, en réalité. Et la Berthe, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire que dernière de son village, y habitant seule, dans un fond de vallée, loin de tout, à 95 ans, quand on allait la voir, elle vous parlait avec l'accent d'Arletty. Voilà ce qu'il en est, si vous voulez, de ces sentons de cartes postales. Et je crois qu'il revient à la littérature, à contrario, de raconter ce récit de soi qui est un personnage, de montrer le pittoresque comme une manière de se raconter des histoires, comme une modalité de la nature discursive de l'expérience. Et je vais entrer dans un quatrième point, qui est peut-être le plus essentiel de mon propos sur ce point. Le réel est difficile parce que la vie est une fiction. Autour de l'idée de secret. Évidemment, à la campagne, tout le monde a des secrets. Et l'une des causes de la colère de certains contre le livre, c'est qu'il a révélé un secret de famille, qui a rangé Pays perdu parmi la catégorie répandue aujourd'hui des livres à indiscrétion et à scandale, où la révélation vaut pour elle-même, au fond, pour le passage obscène du caché au public. Ce qui est révélé passe pour le réel, le fond des choses. Alors d'une certaine façon, c'est la révélation qui se donne à voir. Et d'une certaine façon, il n'y a rien à voir. La fonction de ces histoires que j'ai racontées était différente. Les histoires sont toutes les mêmes, hein, c'était des histoires d'adultère, il n'y en a pas d'autres. Il s'agissait d'illustrer, dans ces petites communautés où tout le monde connaît tout le monde, précisément la difficulté de l'intime, la difficulté d'avoir une vie intime. Alors nous sommes dans ces villages sauvages, difficiles à pénétrer, où les gens sont fermés, les maisons impénétrables, chacune, on l'imagine, on le sait, repliée sur son secret de famille. Le secret, voilà. Voilà autour de quoi on tourne, ce qu'on aborde par allusion. Tous les regards se braquent sur l'inaccessible maison de l'autre, qui est l'espace tabou, objet de toutes les précautions, toutes les transgressions verbales. Voilà la réalité ultime, la garantie bancaire de l'authentique, la réserve de singularité de chaque maison. Il y a un théâtre du secret. Quand on ne le raconte pas en public au bistrot, en revanche, on le raconte à voix basse, même lorsque les portes sont fermées et que les gens sont très loin. En même temps, il n'y a pas de secret possible, puisque tout le monde vit sur un périmètre de 2 hectares, où la vie privée est impossible, où tout le monde surveille tout le monde, où tout le monde est de la même famille, d'ailleurs, plus ou moins. D'où un premier paradoxe du secret. Le premier paradoxe, c'est que chacun connaît tous les secrets, mais que tout le monde est censé les ignorer. D'où ce que j'appellerais une véritable fiction du secret. Dans une vie condamnée à être publique, à faire l'objet de récits incessants, il faut faire comme si l'intimité existait. Il faut créer une intimité fictionnelle et protectrice, et tout le monde se plie à ce théâtre. Second paradoxe, ce qui est connu partout est parfois ignoré à l'intérieur de la famille même. C'est-à-dire ce qui est absolument public, mais sous le sceau évidemment du secret, est inconnu du fils de celui qui détient le secret. À la réception du livre, cette fiction a été rompue. Les personnes représentées, effectivement, auraient souhaité un autre mode de fiction, auraient souhaité de la littérature de terroir, certainement. En un sens, ce livre a créé de la réalité, puisqu'il a modifié cette communauté dans la représentation qu'elle se fait d'elle-même, mais il n'a pas été assez fort, c'est apparu très vite, pour modifier la fiction qu'elle se construit. Il y a eu immédiatement une réaction de défense qui a été la construction d'un récit fictif, répondant au livre pour accorder son discours au discours que la communauté se tient sur elle-même. Par exemple, le livre a été considéré comme une vengeance ourdie dans d'obscures querelles qui auraient mêlé ma famille à d'autres familles et dont, je dis tout de suite, j'ignore absolument tout. À l'occasion des suites de ce livre, on a refait ma généalogie. C'est-à-dire que j'ai appris que moi-même, il y avait des secrets, que mon vrai père n'était pas au cimetière là où je le croyais, etc. etc. C'est-à-dire qu'immédiatement, vous voyez, comme l'huître sécrète une enveloppe protectrice, la fiction sécrète son enveloppe pour protéger la fiction. On pourrait dire aussi qu'à l'origine de l'écriture de ce livre, il y a une puissance d'impression, d'odeur, de saveur, de paysage, une violence du réel qui, elle, serait indubitable, qui serait là. Là serait l'authentique, non dans les créations standardisées ou fades du monde moderne. Et toutefois, lorsque je m'en souviens, en écrivant, je me suis aperçu que, aussi fortes qu'elles fussent, ces contemplations d'un paysage, ces respirations d'odeur, jamais ne m'avait livré une plénitude, mais plutôt un appel, une interrogation, Quelque chose est là, disait-elle ses impressions. Quelque chose qui peut-être serait la vie, quelque chose qui prendrait cette figure, mais qui n'est pas là, qui n'est pas encore là. Et au fond, plus que le sentiment d'une plénitude, il s'agissait du sentiment d'une imminence. Et sans doute écrit-on pour ça. Ça me fait penser parfois aux zut de Proust à propos du reflet d'une toiture dans une flaque. Le sentiment qu'il y a quelque chose, mais que ce quelque chose n'est pas encore réalisé. Non parce qu'il y a déjà une ville pleine d'elle-même, déjà authentique, déjà réelle, mais quelque chose qui demande à se réaliser. Pour conclure donc cette première partie, deux choses me gênaient en écrivant ce livre, l'impression d'écrire sur un objet qui avait déjà une valeur en soi, de faire de la transcription de pittoresque, et peut-être de violer quelque chose, non pas tellement de violer tel ou tel secret, mais de rompre le silence, de mettre en lumière ce qui aurait dû rester dans l'ombre. C'est en écrivant ce livre que je me suis aperçu des illusions de l'authenticité et que je me suis aperçu pleinement qu'au fond, la vie paysanne est une vie imaginaire. Et que le réel nous est difficile parce que nous sommes tissés de fiction. Que la vie est d'abord quelque chose que l'on se raconte, un discours sur soi, ce qui fait l'objet d'ailleurs d'un volume, d'une somme en cours d'écriture du romancier François Taillandier et qu'il appelle, pour reprendre le titre d'un de ses volumes, un « telling », la vie comme « telling ». Et que la relation à notre expérience vécue est d'abord de, c'est aussi tout l'objet de la recherche d'ailleurs du temps perdu de Proust, de distance à soi, de distraction, d'illusion, d'intermittence, et que la fonction de la littérature est moins de transmettre cette réserve d'authenticité que de représenter cette fiction, que de la déconstruire, si l'on veut, et aussi peut-être, ou pour aussi peut-être, passer du fictif au réel. Alors, j'aborde ma deuxième partie. Dis-moi, Antoine, je déborde, je risque peut-être de déborder un petit peu, là. Il faut que je m'arrête à 25, à peu près. Je vais aller assez vite. Donc, lorsque j'ai parlé à un ami écrivain des réactions à Pays perdu, il m'a dit « C'est incroyable, tu es quand même écrivain, tu as le droit d'écrire ce que tu veux. » Et il exprimait là, au fond, la doxa artistique contemporaine. L'artiste a tous les droits. Il est justifié. La vie, la sienne, celle des autres, c'est son matériau. Il y puise très librement. L'art est innocent par nature. Il est en lui-même une résistance critique à la société, dans le fil, si vous voulez, des conceptions d'Adorno. Je suis justifié parce que je suis authentique. Je voudrais aborder alors très rapidement dans cette seconde partie cette idéologie de la singularité et cette idéologie de l'innocence de l'art. Je parlais du succès des genres auto-fictifs, autobiographiques, illustrés par de très nombreux écrivains contemporains, Christine Angot, Dan Frank, Roberts, Guillaume Dustan, Camille Laurence, etc. Je crois que ce succès répond en partie au besoin de maintenir des liens entre littérature et monde réel. Et un tel acte littéraire, oui, parce que c'est un acte, au fond, comme le revendique Christine Angot, au fond, une autobiographie, c'est un acte. Elle dit « Je ne veux plus jamais entendre dire que ce n'est pas important la vie des écrivains. C'est plus important que les livres. C'est la vie des écrivains qui compte. » Au fond, c'est un peu une version de ce qu'on a lu tout à l'heure de Montaigne. « La parole est un acte pour nous, c'est un acte quand on parle. » Maintenir des liens entre littérature et monde réel. Voilà qui est censé tout justifier, par exemple, la violence exercée sur l'intimité de personnes désignées par leur nom. Ce qui est censé déranger, c'est l'affirmation d'une singularité irréductible. C'est en cela que le texte littéraire cesserait d'être pur discours pour devenir acte. L'œuvre peut se nourrir du monde, non pas seulement parce qu'elle constitue en elle-même un absolu d'ordre esthétique, mais parce qu'elle est censée compromettre l'ordre établi, résister à la norme sociale. Je m'affirme en tant qu'individu, je suis contre la société, je suis contre l'ordre. Or, cette idéologie, qui se veut du côté de la résistance, en réalité, si on y regarde de près, s'inscrit très exactement dans l'ordre établi. Puisque le modèle dominant de la représentation, dans les médias, dans la société, est celui de la singularité irréductible, de l'affirmation de la différence individuelle. les magazines, les divertissements télévisés, les campagnes des partis politiques, tout l'arsenal de représentation et de communication de la société marchande ont pour thème essentiel l'individu. L'individu dans son intimité, dans son irréductible singularité considérée comme valeur, et ne cesse d'en traquer la révélation ultime, de sorte que le genre de l'intime, loin d'être une rébellion du singulier contre le collectif, sur le modèle romantique, se soumet à cette marchandisation du singulier. Il s'agit de montrer un objet qui se donne comme radicalement unique, trouve sa valeur et sa signification en soi et par soi. Si on regarde certains de ces textes, d'ailleurs, si vous avez sans doute lu un Christine Angot, ou un Nicolas Page, ou un Jean-Marc Dustan, on y trouve les menus consommé par l'auteur, ses courses au supermarché, ce qu'on lui a servi dans l'avion, etc. Toute une série de noms, name-dropping, de personnes que l'auteur connaît. Bref, beaucoup de ces textes sont en grande partie consacrés de ce que Barthes appelait des effets de réel, c'est-à-dire de détails dont l'insignifiance signe l'authenticité. À la limite de ce type de représentation, moins il y a de sens, plus il y a de vérité. Et c'est donc l'insignifiance qui constitue la valeur éthique du texte. Le détail fonctionne comme garantie. Sa valeur n'est pas en lui, mais dans sa désignation d'une authenticité préexistante, dont il n'y a rien à dire, d'ailleurs, que cette désignation. Il y a donc là, si vous voulez, l'idée d'une valeur ajoutée, d'une espèce de pittoresque que l'on confond avec la littérature. Elle est là avant la littérature, avant les mots. Elle est dans le singulier, mais le singulier est un rien. Son authenticité réside, dans son insignifiance. Paradoxe qui aboutit à ceci, le sens de la singularité, si on le considère comme valeur absolue de la représentation, c'est d'être montré. Sa signification s'épuise dans la mise en scène qui en est faite. Et la représentation tend à se prendre elle-même comme objet et fondement du réel. Ce qui est réel, c'est ce qui est montré. Au fond, la représentation médiatique inverse la représentation littéraire. Il ne s'agit pas pour elle de montrer la vie comme une fiction, but que j'assignais tout à l'heure à la littérature, mais de faire passer le spectacle pour la vie. De sorte que je crois qu'il y a des écrivains qui sont du côté de la littérature, c'est-à-dire qui montrent la vie comme une fiction, et des écrivains qui sont du côté des médias, c'est-à-dire qui font passer le spectacle pour la vie. Tout en se faisant passer pour des rebelles, sachant qu'être rebelle est le dernier mot de la valeur médiatique. Un autre paradoxe de la singularité est qu'elle appelle à l'identification. L'individu singulier qui se livre dans le texte intime tire sa valeur d'être semblable à lui-même et à nul autre, d'accord ? Mais le grand succès public des textes intimes indique bien que beaucoup de gens s'y retrouvent. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve ? Qu'est-ce qu'on y reconnaît ? Parce que la singularité est la valeur ultime, on y trouve la confirmation du fait qu'on a bien raison d'être soi-même. Parce que le détail est insignifiant, donc interchangeable, on peut y constater que nous sommes bien, au fond, tous les mêmes. La singularité est donc à la fois absolue et absolument vide. De sorte que le discours implicite d'un certain nombre d'écrits contemporains pourrait s'énoncer ainsi « Voilà ce que je sais que je suis » et qui rejoint ce que vous savez que vous êtes. Ce n'est pas une mise en jeu du singulier, mais un confort du singulier. Quelque chose précède le dire, ce quelque chose c'est moi, le monde réel dans lequel je suis, et cela vaut en soi parce que ça existe. Ma tâche en tant qu'écrivain consiste à le livrer. Il me semble qu'écrire la vie pour la littérature d'aujourd'hui, ce serait au contraire opérer un renversement épistémologique. Dans le monde moderne en proie à l'indifférenciation, la qualité singulière nous apparaît comme ce qui est désirable, ce qui a de la valeur. Je veux être différent, comme tout le monde. La littérature, elle, part du singulier, elle le défait, elle le déconstruit, elle montre la multiplicité où l'on voyait l'unité, le vide où l'on voyait du plein. Elle nous libère du mythe de l'origine et permet de revenir à la vie comme ce qui n'est pas donné. Le réel n'est pas avant la littérature. Il est plutôt ce qui doit, éventuellement par elle, advenir. Je voulais vous parler rapidement de l'idéologie de l'innocence de l'art, mais je passerai là-dessus. Et je conclurai alors, peut-être par une, Une remarque de Renaud Camus. Au fond, quel serait un langage juste en littérature ? Peut-être serait-il tel que chaque être que l'on croyait solide, constitué, révèle ce en quoi il est autre, cette part de vide où il trouve sa respiration. La littérature a affaire aux choses les plus singulières, c'est vrai. Elle se nourrit de singularité, c'est vrai. Mais sans doute va-t-elle là où le singulier se perd dans son excès. Et ce perdant rejoint cet espace où la singularité est aussi n'importe qui, n'importe quoi. Chacun peut s'associer à d'autres, trouver des solidarités inédites. Ce faisant, elle cherche le réel, comme je le disais, c'est-à-dire l'inverse d'une préservation de soi. Ce que Renaud Camus nous propose de ce qui devrait s'accomplir dans les écrits intimes, c'est une description qui va à l'encontre de cette idéologie de la singularité que j'ai décrite. Je le cite, « Nous sommes des spectres à nous-mêmes. Le journal n'en finit pas d'explorer ses fantômes, ses vieilles idoles, l'éventail de ces simulacres où le moi se réfugie tour à tour et que débusque l'écriture de soi, avec plus ou moins de méthode. Pareille entreprise n'est pas dissociable d'une absence à soi-même, d'une distance prise ou constatée avec le monolithisme du jeu, d'un ébranlement, voire d'un éparpillement de la personne. Et c'est la nature même du sens qui se voit remise en cause indéfiniment par ce doute porté sur l'essence du lien qui l'unirait à un sujet propriétaire et bien calé sur sa certitude d'être, et d'être un, bien complet. » Je vous remercie.